La sécurité économique est-elle un moyen pour une impossible souveraineté retrouvée ? La mondialisation était annoncée comme heureuse, mais elle se traduit souvent en France par la désindustrialisation et des pertes d'emplois, des territoires qui se sentent abandonnés par les acteurs privés comme par la puissance publique. Dans ce contexte, pourquoi la sécurité économique devient-elle une ardente obligation ? Mais que faut-il entendre par sécurité économique ? En France, passe-t-elle par une réindustrialisation ? Si nous ne pouvons pas tout faire, comment maîtriser nos dépendances ? Quels sont les fondamentaux ? Dans quel secteur d'avenir conviendrait-il d'investir ? Pour répondre, nous avons le privilège de recevoir Axel De Gans, docteur en géopolitique de l'Université Reims-Champagne-Ardenne, agrégé d'histoire, professeur de chaire supérieure au lycée Faidherbe à Lille, où elle enseigne la géopolitique en classe préparatoire, économique et commerciale.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Axel De Gans, au sujet de la sécurité économique, quelle est l'idée reçue qui vous semble inexacte et pourquoi ?
Bonjour Pierre Verluise. Bien, la sécurité économique est très souvent confondue avec la sûreté. La sûreté des entreprises, les locaux, la sûreté informatique, alors que ce n'est qu'une toute petite partie de la sécurité économique. Parfois, on confond aussi la sécurité économique avec, on va dire, une attitude extrêmement défensive, de protectionnisme en surannée. Et donc, en fait, la sécurité économique a souvent mauvaise presse. On ne voit souvent pas du tout le rapport avec la géopolitique. D'un côté, on aurait l'économie, de l'autre, on aurait en fait une sphère de relations internationales. Alors, on peut entendre la géopolitique comme les rapports de force ancrés dans les territoires et avec une notion essentielle au sein de cette discipline qui est la notion de puissance. La sécurité économique est relativement complexe à définir. En fait, il s'agit d'accompagner à l'international le développement des entreprises, par exemple, mais c'est aussi une surveillance des informations, de leur véracité, puisque nous sommes dans un monde de post-vérité, donc il est très important de s'assurer de la véracité des informations qui sont tenues, de la protection des informations, de la protection du patrimoine immatériel des entreprises, de la protection des capacités productives, par exemple, d'un État. C'est aussi des missions de développement, de capacités économiques, industrielles, par exemple. Autrement dit, la sécurité a deux visages, un Janus, un visage défensif, et un visage offensif pour, in fine, être toujours en capacité de produire des richesses.
Axel De Gans, Alain Minc nous vendait la mondialisation heureuse. Mais le réveil est difficile. Dans ce contexte, la sécurité économique est-elle une option ou une obligation ?
Alors, effectivement, le réveil est difficile pour les Européens, sachons-le, parce que c'est en Europe que nous avons désespérément voulu croire à ce rêve de la mondialisation heureuse. Elle a été heureuse pour les consommateurs occidentaux tout en général, hein, c'est une certitude. Ouais. Ceci étant, eh bien, le réveil est difficile parce que les autres ont mené une guerre économique que nous n'avons pas menée, ou très peu. Et donc, aujourd'hui, eh bien, je veux dire qu'on a quasiment la gueule de bois, en fait. Alors, aujourd'hui, on a plus le choix. Nous sommes un territoire qui s'est particulièrement désindustrialisé. Si je prends le cas de la France, alors vous savez que l'industrialisation est mesurée par deux critères qui sont la part de l'industrie dans le PIB et la part de la main-d'œuvre industrielle dans la main-d'œuvre totale. Eh bien, la France, aujourd'hui, est un pays qui est très désindustrialisé, qui, par exemple, est plus désindustrialisé que l'Italie. Alors que ce n'est pas du tout l'image reçue que nous avons de l'Italie. La France est beaucoup plus désindustrialisée que l'Allemagne, que le Royaume-Uni, et nous sommes aujourd'hui dans des étiages qui sont très bas, à un tel point que François Bost, qui est un grand spécialiste des systèmes productifs, se demande même si on est encore en capacité d'inverser la tendance. Donc, la désindustrialisation a été un choix politique, un choix des entreprises. on nous a vendu finalement que l'industrie, l'économie industrielle était dépassée, qu'on pouvait finalement l'exporter vers les pays pauvres, bien heureux de récupérer des emplois industriels, alors que nous allons garder des emplois tertiaires et supérieurs, plus propres. Bref.
Et puis nous sommes tellement intelligents, nous arrivons toujours à avoir une longueur d'avance, pensait-on.
Oui, et puis surtout généreux,
en termes
puisque
de R&D.
Nous avons donné des emplois que nous ne voulons plus pour garder les beaux emplois. Et je reviens à l'idée d'un monde aujourd'hui qui est un The Rest contre The West. Une condescendance, on donne des emplois qu'on ne veut plus, on garde les beaux emplois en étant persuadé qu'effectivement nous allons garder notre longueur d'avance en termes de recherche-développement. Ceci étant, il suffit de regarder le budget qui est consacré en Europe à la recherche-développement. Bon, bah, les Japonais font bien mieux que nous, les Américains font bien mieux que nous, et je crains que nous ne déposions que très peu de brevets. Je ne parle même pas ici de la capacité chinoise à déposer des brevets.
Et cela fait très longtemps que nous ne faisons pas assez d'investissements en termes de R&D. Déjà dans les années 2000, l'Union européenne a mis la main sur le cœur en disant « Nous allons faire le nécessaire pour passer d'ici 2010 à plus de 2% du PIB d'investissement dans la R&D ». Crise de 2008 qui passe par là, c'est vrai, mais n'en demeure pas moins qu'en 2010. C'est toujours pas atteint, on remet à nouveau la main sur le cœur et on dit, cette fois, ça sera en 2020 et on n'y était toujours pas en 2020.
Il me semble qu'il y a en Europe communautaire toute une série de promesses non tenues, donc pour l'innovation par exemple, mais aussi pour l'armement, puisqu'on n'a jamais tenu nos promesses d'atteindre plus de 2% du PIB dans l'armement. Et dans ces deux cas, le réveil est difficile. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de dépendance multiple, qui sont problématiques. Pour moi, tout simplement dans la capacité que nous avons à maintenir la création de richesses sur le sol européen. Nous sommes dans un espace où il fait bon vivre. Il faut en avoir conscience, hein, au-delà des problèmes que nous pouvons avoir sous les yeux. Nous sommes dans un espace où il fait bon vivre, et même très bon vivre, au regard du reste de la planète. Et pour cela, il faut créer des richesses. Or, nous avons mis en place une politique qui nous permet de moins en moins de créer des richesses.
Alors, ce qui est original dans ce que vous avez dit, notamment, c'est le fait que vous avez posé que cette désindustrialisation reposait sur des choix politiques, mais aussi des choix des entreprises. Autrement dit, les entreprises ne sont pas seulement des victimes, mais des acteurs dans cette affaire qui ont elles-mêmes organisé, finalement, les difficultés.
Alors, loin de moi de l'idée de tous coupables, bien sûr.
D'accord.
En fait, il y a une convergence de vues entre les puissances publiques et les entreprises. Je reviens à mon idée de mondialisation heureuse. Elle a d'abord été pour les actionnaires, pour le monde de la finance, qui s'est quand même considérablement enrichi à partir des années 1980. Elle a été aussi pour les entreprises. Cette mondialisation heureuse, hein, c'est, vous savez, la victoire de l'économie sur le politique et le géopolitique, paraît-il. Ce que nous savons aujourd'hui que ce n'est pas vrai, c'est des entreprises qui ont mis en place une politique de, je cite le patron de Safran que j'entendais encore la semaine passée, de maximisation des coûts. Et effectivement, pour maximiser les coûts, on a développé, Daniel Cohen dit saucissonner l'entreprise, on a découpé en tranches l'entreprise, le capitalisme, et on a éclaté les chaînes de production à l'échelle mondiale, jouant sur les avantages comparatifs des uns et des autres. Donc on a mis le monde entier en concurrence pour avoir les coûts de production les plus bas, ce qui a permis de baisser légèrement les prix des produits et finalement d'avoir le contentement des consommateurs occidentaux qui se sont mis à consommer des produits qui n'étaient plus produits chez eux.
Et à se réveiller avec la gueule de bois.
Voilà.
Donc la sécurité économique dans ce contexte, finalement, c'est la question de la maîtrise de son devenir.
Voilà, c'est la maîtrise de notre avenir, de notre destin. Alors, cette sécurité économique, on ne l'aperçoit pas partout de la même façon, et c'est ça qui est intéressant en géopolitique. En fait, si on prend le cas des États-Unis, aux États-Unis, vous avez une pierre angulaire qui est la sécurité nationale. Et la sécurité nationale, c'est d'abord la défense. Aux États-Unis, à l'évidence, hein, on connaît les crédits alloués donc, à l'armée, à leurs armements. C'est la sécurité intérieure et c'est la sécurité économique. C'est les trois piliers.
Dans le cas de la France, est-ce que la sécurité économique de la France passe par la réindustrialisation ?
Alors, la sécurité économique, elle a, on va dire, toute une série de petites graines. Le rapport Martre en 1994, qui est la première petite graine. La deuxième petite graine, c'est le rapport Carayon en 2003, qui a donné lieu à la création des pôles de compétitivité, par exemple. Et donc, ces pôles de compétitivité, c'est bien l'idée qu'il faut de nouveau produire. Alors, derrière cette réindustrialisation, il y a des concepts, je prie les auditeurs d'excuser les mots grossiers que je vais prononcer, patriotisme économique, indépendance économique, voire souveraineté économique. Ça veut dire que c'est la prise de conscience de la nécessité de produire sur des territoires pour maintenir une cohésion sociale et maintenir la capacité que nous avons à créer des richesses qui, in fine, nous permettent d'avoir le niveau de vie que nous connaissons aujourd'hui. Et la réindustrialisation est en cela un levier extraordinaire, parce qu'on sait que l'industrie crée des richesses. Le problème, c'est que nous avons perdu beaucoup de savoir-faire. Beaucoup de machines-outils sont parties, et que nous avons arrêté de former une main-d'œuvre industrielle dans de nombreux territoires. Et donc ça, c'est très compliqué.
Dans certaines industries d'armement, on s'inquiète même de la possibilité d'avoir une main-d'œuvre formée pour certains métiers, voici quelque temps avant la relance de fabrication d'armement.
Alors, les enjeux de la réindustrialisation, vous voyez, enfin, comment dire, il y a la recommandation, et puis il y a ce qui se passe dans la vraie vie. Maintenant, depuis le Covid, la crise du Covid et depuis la guerre en Ukraine, on comprend que nous avons tout intérêt à nous réindustrialiser. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'on propose qu'on peut le faire. La première chose, c'est qu'on a effectivement un problème de main-d'œuvre. Ça veut dire que nos jeunes, eh bien, se destinent assez peu, finalement, à des études dans le monde industriel. Et il suffit de regarder la disparition des mathématiques dans l'enseignement général en lycée pour comprendre à quel point nous nous affaiblissons.
C'est une décision qui a été prise par le gouvernement, pas par les élus de l'Ève.
Ah, tout à fait, mais ceci étant, on a la possibilité de faire spécialité mathématiques. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 35% des élèves de terminale qui ont un enseignement mathématique
contre 70%. Je peux comprendre que les jeunes filles sont de moins en moins présentes.
Oui, et là, cette réforme a genré effectivement l'apprentissage des mathématiques. En tant que femme, je peux vous dire que c'est une catastrophe. La deuxième chose, c'est que... donc, on a perdu le savoir-faire. La deuxième chose, c'est que quand on veut réindustrialiser, une entreprise qui veut revenir sur le territoire national, elle a comme première problématique de trouver donc des ressources humaines, nous voulons le dire, mais de trouver des fournisseurs, de trouver des lignes d'approvisionnement. Et ça, c'est extrêmement complexe. Parce qu'on n'a pas un tissu de fournisseurs qui est resté. Il faut donc reconstituer tout un tissu économique extrêmement complexe. Et c'est en cela aussi que la réindustrialisation est compliquée. Et puis avec des habitudes que nous n'avons plus, vous savez, on ne peut pas faire du télétravail sur des chaînes de production, par exemple. C'est compliqué quand même. Donc, on a toute une série, je dirais, d'handicaps très forts qui sont là. La réindustrialisation, elle a aussi des motifs et des ressorts géopolitiques. On le voit très très bien avec le Covid et surtout la guerre en Ukraine, où là on s'est dit c'est très dangereux, il faut qu'on rapatrie ce qu'on appelle le nearshoring, donc raccourcir les chaînes de valeur, par exemple sur le territoire européen, première chose. Ceci étant, faut-il encore trouver sur le territoire européen des remplacements de ce qui se passe en Chine. La deuxième chose, quand on est à l'étranger, il faut choisir des pays amis. Le friendshoring,
sur le long terme, ce qui est difficile à deviner.
Ce qui est difficile. Autrement dit, il faut être moins addict de la Chine. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et quand on quitte la Chine pour le Vietnam, en général, c'est pour une filiale chinoise.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Axel de Gans, on a bien compris l'urgence de se saisir de la sécurité économique, mais... est-ce que la sécurité économique nous permettrait d'être sur tous les fronts ?
Alors, en fait, nous avons tellement perdu que ce n'est plus du tout envisageable. Il faut gérer nos dépendances. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas... Alors, si je prends le cas français, nous étions extrêmement bons dans l'industrie du médicament. Alors, il y a eu un plan social qui n'a pas dit son nom dans l'industrie du médicament. D'ailleurs, nous l'avons découvert récemment avec la pandémie. Plus de masques, plus de doliprane fabriqués en France. Donc, c'est un choc. On ne pourra pas rapatrier... Si je prends l'industrie du médicament, on ne peut pas rapatrier tout ce que nous avons perdu. Il sera très difficile, par exemple, de rapatrier définitivement le doliprane. Dans ce cas-là...
C'est quand même extraordinaire.
Ah mais vous prêchez une convaincue. Ça veut dire que les principes actifs, et en gros, ils sont fabriqués dans 4/5 des cas par la Chine ou l'Inde. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on va pouvoir garder, ce qu'il faut à tout prix garder dans l'industrie du médicament, eh bien, c'est les médicaments d'avenir, les biomédicaments. Mais on ne pourra pas rattraper le reste. Et avec les problématiques de sécurité sociale, on sait bien que, évidemment, on ne pourra pas fabriquer des médicaments en France ou en Europe avec des coûts de production qui sont beaucoup plus élevés en Chine qu'en Inde. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si je prends maintenant, de façon générale, en fait, vous avez un pays qui s'appelle la Chine qui a pensé la sécurité économique depuis longtemps et qui a eu l'intelligence de se positionner sur des éléments de la chaîne de valeur où elle est en position hégémonique. par exemple sur les terres rares, elle est en position hégémonique. Elle a fait une politique d'achat de terres à l'échelle internationale. Nous parlions éventuellement, on peut parler du cobalt en République démocratique du Congo. Et surtout, elle s'est positionnée sur un segment extrêmement intéressant qui est le retraitement des matières premières. Donc quand vous extrayez par exemple du cobalt en République démocratique du Congo, il va être retraité en Chine et revenir chez vous. Donc là, vous imaginez déjà le bilan carbone des choses. La Chine a fait ça. Bon, bah nous, on ne pourra pas avoir des chaînes que nous posséderons de l'amont vers l'aval. Alors, à part quelques chaînes stratégiques, par exemple l'industrie d'armement, où il est indispensable de tout maîtriser, jusqu'au sous-traitant, dans tout ce qui n'est pas organisme d'intérêt vital, eh bien, il faudra faire des choix. Et en fait, c'est ça. C'est être capable d'avoir un état stratège qui fait le diagnostic des points nodaux sur lesquels nous devons être présents et que nous devons conserver grâce, par exemple, à la recherche-développement, grâce à des acteurs qui vont être formés, à une main-d'œuvre formée, à une accessibilité des territoires, et faire l'analyse de ce qu'on va garder et de ce qu'on accepte de perdre. Donc une gestion des dépendances. Mais pour ça, il faut un état stratège.
Alors vous parlez d'un état stratège. J'ai quand même deux questions qui me viennent. Premièrement, les États se sont, à partir des années 1980-1990, eux-mêmes déshabillés d'un certain nombre de leurs compétences, ne serait-ce qu'avec le contrôle des frontières intra-Schengen, par exemple, dont on a découvert un peu tardivement que ça pouvait poser des problèmes, ce qui est quand même surprenant. Et d'autre part, l'Union européenne est un acteur, mais ça n'est pas un État. Alors comment est-ce que vous combinez ces États européens qui se sont défaits de beaucoup de leur souveraineté et une Union européenne qui n'est pas un État ?
Alors,
avec des États de surcroît, pardonnez-moi de vous interrompre, qui sont jaloux de leur souveraineté.
Alors ici, on touche à un élément très sensible. Alors nous nous réveillons d'un rêve qui est le rêve du néolibéralisme, des États qui disparaissent, qui s'effacent derrière le tout marché et derrière les grandes entreprises qui apparemment étaient mieux à même que les puissances publiques à gérer les problèmes. Bien. Ça, c'est le premier souci que nous avons. En fait, nous avons affaibli nos États dans leurs ressources. Et plus nous sommes affaiblis et plus nous sommes endettés, moins nous avons la capacité d'être un État stratège et d'avoir les ressources de résilience. En fait, la résilience, elle est quand même conditionnée par la capacité que nous avons à créer des richesses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous soulevez, c'est la question de l'échelle. Alors, au moment où je vous parle, il n'y a pas d'État stratège dans l'Union européenne. Et de toute façon, les États au sein de l'Union européenne ont des intérêts qui sont divergents. Clairement, on va être clair, hein, il y a une véritable guerre économique entre l'Allemagne et ses partenaires au sein de l'Union européenne. Nous le voyons, si on prend le cas de l'électricité, prenez le cas d'électricité. La France défend la création d'électricité à partir du nucléaire qui rejette peu de GES. L'Allemagne ne veut pas en entendre parler. En fait, parce que l'Allemagne avait trouvé une martingale avec le gaz russe pour produire une électricité peu chère. Et en fait, la France a un avantage comparatif énergétique pour la production que n'avait pas l'Allemagne. Donc on a une guerre économique qui est au sein de l'Union européenne, tout simplement parce que l'ADN de l'Union européenne, c'est la concurrence. Et si on envisage l'entrée de l'Union européenne, dans l'Union européenne pardon, de l'Ukraine, là aussi, ça va être extrêmement difficile, du fait de la concurrence, d'une manœuvre extrêmement peu chère. Et dans le même temps, on aura des transferts financiers vers l'Ukraine. Donc en fait, vous voyez, il n'y a pas la possibilité de créer un État stratège, enfin, en tout cas pour l'instant, ce n'est pas très envisageable, parce que l'Union européenne n'a pas de ressources propres suffisantes, et parce qu'à l'intérieur, ces acteurs sont trop différents les uns des autres. Nous n'arrivons pas à dégager un intérêt commun face au reste du monde.
Axel de Gans, comment l'Union européenne, dans ce contexte, peut-elle espérer naviguer entre les États-Unis et la Chine ?
Alors, ce que nous voyons en termes de sécurité économique, c'est l'autre élément qu'il faut soulever ici, c'est la capacité à produire des technologies nouvelles. Mmh. Bon. Nous avons des ressources humaines de très grande qualité en Europe. Hein. Je vous rappelle que le monde entier nous envie nos ingénieurs, par exemple.
Tout à fait. Et de plus en plus de jeunes Français diplômés quittent la France pour aller faire carrière hors de France.
Voilà. Alors le problème, il est là, c'est que nous ne sommes pas capables de retenir ce qu'on appelle nos talents. En fait, comprenons que dans le cadre de la mondialisation, de la guerre économique, il y a une course aux talents. Nous les produisons et nous les perdons.
Oui.
Nous produisons des start-up que nous perdons. Regardez Moderna. c'est quand même le cas d'un ratage en Europe qui est évident. Donc, c'est le premier problème. Résultat des courses, les innovations se font ailleurs. Et ce qui va se produire, c'est que les Européens, s'ils ne sont pas à même de produire eux-mêmes des technologies, auront un choix géopolitique très simple. Dans le cas de la grande cassure géopolitique sino-américaine, ou bien nous allons choisir des technologies américaines, ou bien nous allons choisir des technologies chinoises. Le cas de Huawei est éclairant. Donc, les États-Unis ont demandé à ce que les agents fédéraux n'utilisent pas Huawei, hein, vous le savez, parce qu'ils soupçonnent de l'espionnage économique.
Qu'est-ce que c'est Huawei ?
Donc, c'est une marque, c'est un géant de la tech chinois, qui vend notamment des smartphones. Les autorités américaines soupçonnent ces smartphones d'être équipés de logiciels espions qui permettent donc de capter des informations essentielles qui seraient donc transférées vers Pékin. Bien. Les États-Unis ont dit que les agents fédéraux, enfin tous ceux qui travaillent pour l'État fédéral, n'ont pas le droit, notamment dans le renseignement. Sauf que Huawei est à la tête de la technologie 5G. Et donc les Britanniques étaient assez tentés de se doter de la technologie 5G Huawei. Et là, les États-Unis ont dit, c'est pas possible. C'est ou bien vous êtes notre allié, ou bien vous vous équipez en Huawei. C'est comme vous voulez. Bon, le choix a été vite fait. La pression a été identique sur l'Allemagne. Donc, en fait, c'est ce que nous voyons. Nous aurons le choix entre le BATX et les GAFAM, entre les technologies de la 5G ou chinoise ou américaine. Alors, la 6G est une bataille qui n'est pas encore terminée. Bon, on s'y est investi, je ne sais pas si nous allons la gagner. Mais il y a aussi tout ce qui concerne le quantique, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et en fait, on a aujourd'hui une bipolarisation mondiale, notamment de l'intelligence artificielle, dans laquelle les Européens sont singulièrement absents. On est condamné, finalement, à être un marché pour les autres. Si nous ne réussissons pas, si nous n'investissons pas dans l'avenir, si on ne développe pas nos capacités à produire, à forger notre destin, et ça, c'est l'essence même de la sécurité économique. Nous souffrons de l'extraterritorialité du droit américain, par exemple.
Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, la loi américaine s'applique partout. Par exemple, quand vous achetez quelque chose en dollars, quand vous vendez, vous produisez, vous produisez des téléphones portables en dollars, dans ce cas-là, eh bien, vous tombez sous le coup de la législation américaine parce que vous utilisez le dollar.
Vous utilisez Amazon, vous tombez sur
la législation américaine, vous utilisez un composant électronique dans l'industrie d'armement, c'est la législation ITAR, et les Américains sont très vite persuadés que vous trichez. Et d'ailleurs, nombre de sociétés européennes ont dû payer des amendes colossales, sinon elles sont privées de l'accès au marché américain et à la cotation américaine. On peut se souvenir de BNP Paribas, de Total, de Siemens, qui ont payé des amendes colossales. Donc, extraterritorialité du droit américain. Donc, on a mis en place, on fait de la compliance. Hein. Donc, nos entreprises ont pour souci d'essayer de ne pas tomber sous le coup de la loi américaine. Donc, on a essayé de mettre en place, des réformes de droit pour essayer d'éviter cela. Le patriotisme économique n'est pas encore de mise, puisqu'il n'y a pas d'État, nous l'avons dit. Nous commençons tout doucement, à mettre en place des règles de réciprocité. Parce que nous sommes ouverts à tout vent. Et nous n'exigeons pas de réciprocité. Je vous prends un autre exemple. En ce moment, ce qui commence à nous inquiéter, c'est que l'Europe communautaire a beaucoup investi dans la connexion des voies ferroviaires et routières entre l'Est et l'Ouest, puisqu'elles n'existaient pas naturellement du fait de la coupure géopolitique jusqu'au 90. Bien. Donc on a beaucoup investi, donc on a innervé notre territoire. Et là, en ce moment, la Chine est en train d'acheter les ports. Elle a acheté 100% du Pirée. Alors, les Européens sont responsables, hein, puisque nous avons sommé les Grecs de rembourser la dette qu'ils ont. Ils viennent d'acheter 44% du port de Hambourg, 44% du terminal des Flandres, c'est-à-dire à Dunkerque. Et en fait, vous voyez, finalement, ils se mettent à la terminaison du continent européen et bénéficient de tous les investissements publics qui ont permis d'énerver le territoire. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir, là. À force de ne pas faire de géopolitique, eh bien, ça, nous en serons les premières victimes. Hein. C'est une évidence.
Alors justement, pour en savoir plus à ce sujet et continuer à réfléchir, quelles seraient là où les ressources que vous pourriez nous conseiller ?
Alors moi, je vous recommande l'usage immodéré du portail de l'intelligence économique. Alors le souci, c'est que quand on commence à regarder ce portail de l'intelligence économique, on y reste. Voilà.
Donc des lectures abondantes. précise.
Tout à fait. Et puis
stimulante.
Et vous pouvez aussi utiliser des films qui sont très intéressants. Vous pouvez utiliser regarder Le Loup de Wall Street qui vous montre les bouleversements de la sphère de la finance. Regardez qui sont très intéressants Margin Call qui là aussi vous explique tous les mécanismes et les conséquences de la crise née des subprimes. Vous avez aussi des choses qui sont très intéressantes comme ça. Le coût de la désindustrialisation est une facture que nous n'avons pas fini de payer socialement, économiquement, et aujourd'hui, nous commençons à avoir la facture politique.
Merci beaucoup. Planisphère recevait Axel de Gans, docteur en géopolitique, de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, agrégé d'histoire, professeur de chaire supérieure au lycée Federbe à Lille. Nous vous recommandons particulièrement la lecture de sa thèse, disponible sur lediploweb.com, « La sécurité économique de la France dans la mondialisation, une stratégie de puissance face aux nouveaux défis du XXIe siècle ». Chères auditrices et chers auditeurs, à la semaine prochaine.